Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question, au micro Catherine Mann et Rondro Tsizaza. Bonjour Rondro.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Le thème de notre émission est donc toujours « Comment la Bible nous parle-t-elle de la prière ?» Et nous essayons de cerner dans les textes bibliques différentes façons de prier en nous approchant au plus près de la définition du catéchisme de l'Église catholique qui nous dit que la prière est une relation vivante et personnel avec le Dieu vivant et vrai. Nous parcourons donc la Bible en cherchant des moments où des personnages bibliques ont avec Dieu cette relation vivante et personnelle, et en essayant en même temps d'y trouver de quoi enrichir notre propre manière de prier. Lors de la précédente émission, nous étions arrivés à la fin du premier livre des rois. Nous avions approché donc le grand prophète Élie et sa relation tout à fait exceptionnelle avec le Seigneur. Nous allons d'ailleurs commencer l'émission d'aujourd'hui en lisant donc, au début du deuxième livre des rois tout ce qui concerne la fin de vie du prophète Élie. Le livre commence sous le règne du roi d'Israël Achazias. Or, je lis au verset 2, Achazias tomba du balcon de sa chambre, la chambre haute à Samarie, et se blessa grièvement. Il envoya des messagers en disant « Allez consulter Baal-Zevouv, le dieu des crônes, pour savoir si je me remettrai de mes blessures. » Et en fait, le problème est ici très clair. Le roi d'Israël, donc les tribus du nord du pays dont la capitale est Samarie, de la même façon que son père Akab avant lui, il prie le dieu cananéen Baal, et donc pas le Seigneur Dieu d'Israël.
Effectivement, et c'est ici que Élie entre en scène. Nous lisons les versets 3 et 4. Alors, l'ange du Seigneur parla à Élie le Tishbite. Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zévouv, le dieu des crônes? C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. Et Élie s'en alla. Nous voyons bien ici que le rôle du prophète est d'abord de faire reconnaître le Dieu d'Israël, et donc de lutter contre les autres dieux, considérés comme des idoles. Ainsi, Élie ira à la rencontre des messagers du roi, pour les renvoyer vers lui et lui annoncer la parole du Seigneur. Et le roi Achazias va demander qu'on lui amène Élie, mais Élie ne se laissera pas facilement convaincre. Et il faut dire que le roi lui a envoyé un messager, mais accompagné de 50 hommes armés. Et donc Élie répond en disant « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et qu'il te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et de fait, le feu descend du ciel et les dévore. Et la même chose se produit ensuite une deuxième fois. Le prophète Élie nous démontre de nouveau ici que son intime relation avec Dieu peut aussi être une dangereuse puissance destructrice. Alors, est-ce que c'est encore vrai pour la prière chrétienne?
Pour nous, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons un épisode du même genre qui est raconté dans l'Évangile selon Saint-Luc, hein, chapitre 9, les versets 51 à 55, parce que là, Jésus, qui est en route vers Jérusalem, envoie des messagers devant lui dans un village de Samarie où on refuse de l'accueillir, parce qu'il se rend à Jérusalem, et vous savez qu'ils sont ennemis avec les Samaritains. Et voici ce que dit le texte, versets 54-55, « Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu tombe du ciel et les consume ?» Mais lui, se retournant, les réprimanda et ils firent route vers un autre village. Voilà, donc des disciples proches de Jésus, Jacques et Jean, se sentent parfaitement capables de faire comme Élie en faisant descendre le feu du ciel pour détruire les ennemis. Mais alors la réaction de Jésus montre visiblement que lui n'est pas du tout d'accord pour qu'on utilise la relation à Dieu à des fins meurtrières. La prière chrétienne reçoit là, à mon avis, une toute autre orientation, résolument non violente. Ce qui n'est pour nous pas toujours facile, hein, parce que nos instincts primaires sont toujours là pour essayer de nous servir de la puissance de Dieu pour faire des démonstrations de notre propre pouvoir. Mais enfin, il semble très clair que le Christ nous invite à autre chose, et d'abord à prier pour nos ennemis. Comme nous pouvons lire d'ailleurs dans Matthieu au chapitre 5, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. »
Et d'ailleurs, ça commence un peu avec Élie, hein, parce que quand le roi va lui envoyer une troisième fois un messager et 50 soldats, ceux-ci vont reconnaître la puissance d'Élie et implorer sa miséricorde. Et c'est Dieu lui-même qui va dire à Élie de changer de stratégie et de faire confiance. Nous lisons au verset 15, « L'ange du Seigneur parla à Élie, descends avec lui, ne crains rien de sa part. » Et là, Élie va suivre les envoyés sans les tuer. Mais s'il accepte de venir vers le roi, c'est quand même pour lui confirmer qu'il va mourir, selon ce que la parole de Dieu avait annoncé. Et cet épisode est là pour démontrer que le Seigneur Dieu d'Israël est le seul qui doit être prié. Et une fois cette démonstration achevée, la vie du prophète Élie va se terminer. Et sa fin sera tout aussi extraordinaire que sa vie. Mais d'abord, Dieu envoie Élie à Bethel et son disciple Élisée va demander à le suivre. Et là, un groupe de petits prophètes prévient Élisée qu'Élie va bientôt être enlevé dans les airs. Ensuite, Élie doit partir vers Jéricho où de nouveau, un groupe de prophètes va prévenir Élisée. « Sais-tu qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête ?» Et puis, une troisième fois, Élie doit se déplacer jusqu'au Jourdain et Élisée continue de s'accrocher à lui. Au verset 6, nous lisons « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Donc là, Élisée a compris ce qui va se passer et veut absolument être présent.
Ah oui, l'événement lui semble suffisamment important. D'ailleurs, la présence de tous les petits prophètes des environs montre que c'est un événement important. Un dernier groupe servira d'ailleurs de témoin au bord du Jourdain quand Élie va faire un petit miracle pour pouvoir traverser le fleuve. Nous sommes au chapitre 2, verset 8. Alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se séparèrent. Ils passèrent tous deux à pied sec. Alors ce petit miracle, c'est une allusion directe, finalement, à Moïse et au miracle de la traversée de la mer des roseaux, de la mer rouge. Et donc le récit qui nous est fait ici sert à mettre Élie finalement sur un pied d'égalité avec Moïse. C'est bien ce que la tradition d'Israël retient d'Élie. Et cela jusqu'à la transfiguration du Christ, hein, où Moïse et Élie apparaissent de chaque côté de Jésus sur le mont Tabor. Ce sont les deux piliers d'Israël qui représentent la loi et les prophètes. Et d'ailleurs, de Moïse non plus, nous ne savons presque rien de sa mort, puisqu'on n'a jamais retrouvé sa tombe. Mais pour Élie, cela va se passer avec beaucoup d'éclat. Thank you. Vous écoutez l'émission La Bible en question, nous parlons de la prière dans la Bible, et nous sommes au chapitre 2 du deuxième livre des Rois, quand le prophète Élie vient de traverser miraculeusement le Jourdain. Et là, il dit ceci à son disciple Élisée. « Demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Et Élisée répond « Que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Voilà quelle étrange requête où l'esprit est présenté comme un matériau à partager ou un gâteau. Il est vrai qu'un tel morcellement de l'esprit, on l'a déjà vu dans le livre des Nombres, au moment où Moïse, qui est surchargé de travail, va recevoir de la part de Dieu 70 collaborateurs. Dans ce chapitre 11 des Nombres, je vous lis le verset 25, « Le Seigneur descendit dans la nuée, il préleva un peu de l'esprit qui était en Moïse pour le donner aux 70 anciens. » C'est donc du même ordre que ce que demande Élisée à Élie, une part de l'esprit, sauf que Élisée veut une double part. Et Élie lui répond ceci, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. » Et tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans la tempête. Quant à Élisée, il voyait. Donc Élisée, puisqu'il voit, est assuré de recevoir cette double part de l'esprit de son maître Élie, qui alors disparaît définitivement.
Sauf son manteau, qui tombe de ses épaules et qu'Élisée va ramasser. Alors, cette ascension tumultueuse paraît quand même un spectacle grandiose qui nous montre encore quelle relation exceptionnelle avait le prophète Élie avec le Seigneur Dieu d'Israël. Et si Élisée hérite de l'esprit d'Élie, il n'en reçoit pas la totalité, semble-t-il. Ou est-ce une façon de dire qu'il est le vrai successeur ? Comme le fils aîné qui reçoit une double part de l'héritage paternel. Élisée aura quand même un rôle très important dans l'histoire d'Israël ensuite, et il montrera lui aussi une grande puissance spirituelle. D'ailleurs, il commence immédiatement par faire quelques miracles. D'abord, lui aussi sépare à son tour les eaux du Jourdain pour traverser à pied sec. Puis, dans la ville de Jéricho, où l'eau est devenue impropre à la consommation, Élisée va miraculeusement assainir cette eau. Mais le miracle suivant est quand même très surprenant. Il s'agit d'un petit récit pendant qu'Élisée fait route vers Bethel. Nous lisons les versets 23 et 24 du deuxième chapitre. « Des gamins sortirent de la ville » et se moquèrent de lui en disant « Vas-y le chauve, vas-y le chauve ». Il se retourna, les regarda et les maudit au nom du Seigneur. Alors, deux ours sortirent du bois et déchirèrent 42 de ses enfants. Voilà donc une malédiction mortelle et qui est faite pourtant au nom du Seigneur. C'est un peu choquant.
Oui, si à premier regard, c'est une façon quand même un peu exagérée de régler ce que je trouve être un problème de susceptibilité. Mais alors il faut réfléchir plus profond, parce que puisque le nom du Seigneur est invoqué, il faut forcément qu'il y ait une justification à cette violence. Les commentateurs font remarquer que les gamins ont en fait manqué de respect à un homme de Dieu, selon l'expression, et que d'une certaine façon, c'est donc Dieu lui-même qu'ils ont insulté, ce qui est une forme de blasphème. Et on sait que la loi d'Israël prévoit la mise à mort des blasphémateurs. Jésus en fera aussi la dure expérience, puisqu'on lui reprochera d'avoir blasphémé en se disant fils de Dieu. Il a été mis à mort. Si de nos jours, les insultes envers la religion ne sont plus punis aussi durement, du moins chez nous, nous devons peut-être retenir de ce petit texte que tous les représentants de Dieu sur terre méritent d'être respectés, au moins pour la dignité de leur fonction, qui en un sens matérialise la présence de Dieu. En tout cas, nous voyons ici qu'Élisée, lui, veut se faire respecter. Et il faut en effet qu'il puisse être pris au sérieux ensuite, hein, en particulier dans son rôle principal qui est de conseiller les rois. Et l'occasion va vite se présenter puisque voilà les Moabites qui vont déclarer la guerre à Israël. Et leur puissance est tellement grande que le roi d'Israël, donc le roi de Samarie finalement, va aller demander l'aide de Josaphat, le roi de Juda, qui va accepter exceptionnellement de s'allier de nouveau aux 10 tribus dissidentes pour gagner cette guerre. Mais il met une condition, être conseillé par un prophète du vrai Dieu d'Israël.
Et là, on va faire appel à Élisée. Alors, Élisée commence par refuser parce qu'il n'a pas envie de rendre service aux Samaritains. Et nous lisons par exemple au chapitre 3, verset 13, « Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va trouver les prophètes de ton père et les prophètes de ta mère. » C'est-à-dire qu'Élisée rappelle à Joram, roi d'Israël, qu'il a hérité de la religion de ses parents, le culte des Baals, et qu'en tant que prophète du Seigneur, il refuse de se compromettre avec cette autre religion. Mais comme le roi Joram insiste devant la gravité de la situation de guerre, Élisée se laisse fléchir. Mais voici ce qu'il dit au verset 15. « À présent, amenez-moi un musicien. » Et tandis que le musicien jouait, la main du Seigneur fut sur Élisée. Nous voici donc pour la première fois devant une nouvelle technique de prière. Pour entrer en relation avec le Seigneur, Élisée se sert de la musique. Cela fait penser bien sûr aux techniques de transe qui existent dans beaucoup de religions comme chez les derviches tourneurs ou les chamans. Dans le christianisme, nous n'avons pas conservé cette quête de la transe provoquée par la musique et la danse, mais le rôle de la musique dans nos liturgies est quand même très important. On ne peut pas choisir n'importe quel genre musical, ou en tout cas, il faut bien réfléchir pour l'adapter aux personnes présentes. Ce qui convient par exemple pour les enfants ou les messes des familles ne convient pas forcément pour les messes ordinaires.
Oui, je pense qu'il y a certainement un genre musical adapté à chaque sensibilité, aussi selon le sens des cérémonies auxquelles on participe. C'est un domaine qui est très complexe et qui dépend du milieu culturel, de la moyenne d'âge, etc. L'Église n'a jamais vraiment établi de règles dans ce domaine. C'est laissé à l'appréciation des responsables liturgiques. Mais il est certain que la musique peut aider à prier et qu'elle peut permettre d'entrer plus facilement dans la relation à Dieu. Et donc que nous devons tenir compte des possibilités qu'elle nous offre. Et ici, dans le deuxième livre des rois, en tout cas, le prophète Élisée va s'en servir pour entrer en relation avec Dieu. Et cela lui permettra de donner aux armées d'Israël et de Juda toute une tactique militaire avec l'aide un peu miraculeuse du ciel qui leur permettra de vaincre les Moabites.
Radio Grand Ciel.
Vous écoutez l'émission La Bible en question à propos de la prière dans la Bible et nous venons de voir au chapitre 3 du deuxième livre des rois que le prophète Élisée avait consulté Dieu en se servant de la musique puis qu'il a transmis les instructions reçues du Seigneur pour gagner une guerre contre les Moabites. Il est intéressant de remarquer ici la réaction du roi de Moab quand il vit qu'il perdait la guerre. Lisons donc chapitre 3, versets 27-28. Il prit alors son fils aîné, qui devait régner après lui, et l'offrit en holocauste sur le rempart. Une grande colère vint sur Israël, qui leva le camp et retourna dans son pays. Voilà, donc on voit que les Moabites pratiquaient les sacrifices humains. Et ici, la réaction d'Israël devant ce rite sanglant est une réaction d'horreur. Ce passage nous montre que la religion a déjà beaucoup évolué en Israël depuis Abraham, qui, lui, acceptait encore l'idée d'un tel sacrifice de son fils, mais que le Seigneur Dieu avait finalement arrêté et interdit. Et cet interdit des sacrifices humains, il semble donc maintenant parfaitement intégré par Israël, puisque leur désapprobation, elle est assez radicale. Mais il reste quand même les sacrifices animaux, hein, qui continueront jusqu'à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ.
Après, ce sera le sacrifice du Christ qui remplacera tous les sacrifices religieux. Il est réactualisé à chaque Eucharistie, mais nous devons remarquer que même si nous apportons aussi nos offrandes pour nous relier à Dieu, maintenant, l'essentiel du don vient d'abord de Dieu lui-même. Il y a donc une incroyable évolution dans la communication avec le Seigneur depuis que le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour nous sauver. Et nous ne devons plus recourir au sacrifice sanglant parce qu'il a eu lieu une fois pour toutes sur la croix, comme le dit la lettre aux Hébreux. En principe, cela doit engendrer une modification profonde de notre civilisation, dont la violence et la cruauté devraient disparaître progressivement. Toutes nos prières doivent aider à nous orienter vers ce monde plus pacifique et heureux, mais il y a quand même encore un peu d'effort à faire, dirait-on. Continuons notre chemin avec le prophète Élisée. Au chapitre 4 du deuxième livre des Rois, commence une série de récits de miracles qui sont importants, parce qu'ils sont souvent assez semblables à ceux que Jésus fera ensuite. D'abord vis-à-vis d'une veuve qui avait des dettes et à qui on voulait prendre ses fils comme esclaves. Quand elle vient vers Élisée, celui-ci lui dit « Que puis-je faire pour toi ?» Et cette question, Jésus la posera souvent avant de faire des miracles. Il la posera par exemple à l'aveugle de Jéricho, Bartimée. Jésus dira « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
Oui, je crois que c'est une indication importante pour notre propre relation à Dieu dans la prière. Il semble que cette question est une invitation à préciser exactement ce que nous espérons comme aide ou comme changement dans notre vie. Comme si le miracle avait besoin d'une situation claire pour se réaliser, ou en tout cas une préparation intérieure suffisante. Car de fait, on ne voit en général pas de miracle accompli sans la collaboration du miraculé. Il y a toujours ce qu'on appelle la synergie, c'est-à-dire une rencontre de la volonté de Dieu et de l'attente humaine, de l'espoir. Élisée va donc faire un miracle pour la veuve, et comme elle ne possède plus rien qu'un peu d'huile, il va faire multiplier cette huile, alors jusqu'à remplir tous les vases qu'elle peut trouver chez elle et dans le voisinage. Alors Élisée lui dit, chapitre 4, verset 7, « Va, vends cette huile et paye ta dette. Ensuite, tu vivras, ainsi que tes fils, avec ce qui restera. » Donc, on peut penser que cette huile devait avoir une grande valeur. Et la veuve est sauvée. Et Élisée s'en va plus loin, à Sunam, nous dit le texte. Et là, il est invité, de nouveau par une femme, chapitre 4, verset 8, mais une femme de condition qui le pressa de prendre un repas chez elle. Donc cette fois, une femme qui n'est pas du tout dans le besoin. D'ailleurs, chaque fois qu'Élisée passera par Sunam, il retourne chez cette femme qui finira même par lui installer une chambre à demeure chez elle. Tout ça parce qu'elle le reconnaît comme un homme de Dieu. Alors, plein de reconnaissance, à son tour, Élisée voudra lui rendre service.
Mais cela ne sera pas si facile. En tout cas, Élisée lui fait dire par son serviteur, au verset 13, « Tu nous as témoigné toutes ces marques de respect, que faire pour toi ?» Mais la femme répondit, « Je vis tranquille au milieu des miens. » Et cette expression signifie qu'elle n'a aucun besoin particulier et qu'elle vit simplement au milieu de sa famille, qu'elle ne manque de rien. Sa vie lui convient, telle qu'elle est, et elle n'a aucune demande à formuler, finalement. Alors, je comprends très bien cette façon qu'elle a d'être contente, d'être sans désir, tout simplement heureuse. En revanche, ça n'arrange pas Élisée, qui va la provoquer à en vouloir plus, à désirer la seule chose qu'elle n'a pas, c'est-à-dire un fils. Et bien sûr, il va faire tout ce qu'il faut pour que, un an plus tard, et bien que son mari soit très âgé, il lui naisse un fils. Ce qui est pour elle, bien sûr, une grande bénédiction. Mais avec ce bonheur, arrive aussi malheureusement le risque de souffrir. Et ça ne tardera pas, puisque l'enfant va tomber malade et mourir. Alors, elle se met en route pour aller retrouver Élisée, qui se trouve à ce moment-là au Mont Carmel. Et on peut imaginer qu'elle doit être non seulement infiniment triste, mais aussi très en colère. On lit au verset 28 ce qu'elle lui dit. « Est-ce moi qui ai demandé un fils à mon Seigneur ? N'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs ?» On peut comprendre sa colère. Hein. Elle vivait heureuse, sa vie lui convenait, et Élisée est venue tout bousculer pour finalement laisser mourir son fils.
Oui, il faut quand même dire qu'Élisée, quand il la reçoit, fait profil bas. Hein. Devant le chagrin de la veuve, il est obligé de se tourner alors vers Dieu, à qui il reproche de ne pas avoir été prévenu de ce qui arrivait chez la veuve. Effectivement, pour un homme de Dieu intimement lié au Seigneur, on comprend qu'il soit un peu dans l'embarras. Hein. Alors, bien sûr, l'histoire finira bien. Élisée va raccompagner la Tsunamite chez elle et il procédera comme avait fait déjà le prophète Élie avant lui, c'est-à-dire qu'il va prier Dieu en se couchant sur le corps de l'enfant. Et il obtiendra la résurrection du fils, mais quand même avec beaucoup de difficultés. Il faudra recommencer à plusieurs reprises. On comprend d'ailleurs pas bien pourquoi il y a ces ratés et ces résistances dans la relation entre Élisée et son Dieu dans cet épisode. Et c'est peut-être parce qu'il a forcé la main à la veuve pour qu'elle accepte un fils, et que c'était un petit peu forcer aussi la main à Dieu. En tout cas, est-ce qu'il faut trouver un sens? Je ne sais pas. Ou simplement comprendre que parfois, il y a des obstacles à nos espoirs, mais que pourtant, il faut persévérer dans la prière. Alors, il est maintenant temps de nous quitter, chers auditeurs. Nous continuerons la prochaine fois l'histoire du prophète Élisée. Et on vous dit au revoir, chers auditeurs, à très bientôt.
Au revoir, Catherine. Au revoir à tout le monde.